RCF. RCF, les racines du présent.
Bonjour à tous, au micro Frédéric Mounier, bienvenue dans ce studio de RCF pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, toujours en partenariat avec le quotidien La Croix. Ces 20 dernières années, pas moins de 40 000 sites archéologiques ont été expertisés en France et plusieurs milliers ont été fouillés, étudiés et valorisés. Ces fouilles dites préventives permettent aujourd'hui de composer une histoire véritablement renouvelée de notre pays, depuis les premières occupations préhistoriques jusqu'aux cicatrices des récents conflits mondiaux. Un livre passionnant vient de sortir qui propose de dérouler ce nouveau récit de la fabrique de la France. C'est le titre de ce livre chez Flammarion. Cet ouvrage est à la fois beau et intelligent et il est publié par l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, l'INRAP. Et c'est son directeur, Dominique Garcia, qui a dirigé ce livre et qui est à notre micro aujourd'hui. Dominique Garcia, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes vous-même archéologue, professeur des universités, et spécialiste des sociétés proto-historiques de Gaule et de Méditerranée. Voilà, ce livre s'intitule donc « La fabrique de la France, 20 ans d'archéologie préventive » sous la direction de Dominique Garcia. Il est publié chez Flammarion. Et donc, nous allons donc avec vous sillonner la France à travers ces incroyables découvertes archéologiques. Écoutez ce que vous appelez, Dominique Garcia, les lectures de notre passé.
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Aujourd'hui, donc, nous fouillons le sous-sol de notre cher et vieux pays. Et dans le studio, donc, j'accueille Dominique Garcia, le directeur de l'INRAP, l'Institut National de la Recherche, archéologiques préventives, au pluriel, l'INRAP. Alors, qu'est-ce que l'INRAP, Dominique Garcia? J'ai compris en vous lisant que vous employez 2200 personnes à gratter le sol, c'est bien ça?
À peu près, oui. L'INRAP est un institut national, et en l'occurrence, national, ça ne veut pas dire parisien, ça veut dire présent partout sur le territoire, dans l'Hexagone, mais également dans les Outre-mer, dans l'océan Indien, dans les Antilles, en Guyane. Et nos archéologues, au quotidien, fouillent les sites archéologiques qui sont menacés par l'aménagement. Donc l'Institut a tout juste 20 ans. Il a été créé suite à la loi sur l'archéologie préventive en 2001 qui permet à l'État maintenant de concilier deux actions fortes, l'aménagement du territoire, la construction des routes, des pavillons, des zones logistiques et en même temps la préservation de l'histoire par la fouille de ces sites archéologiques.
Alors donc concrètement, comment ça se passe? Si je vous ai bien compris, Dominique Garcia, je suis un particulier, je vais construire un pavillon. L'État a le droit de me dire « Attendez, avant de construire le pavillon, on va aller fouiller le sol parce qu'on a l'impression que dessous, il peut y avoir des tas de choses intéressantes, c'est ça ?»
Alors oui, à part que presque vous ne le subirez pas. C'est-à-dire que c'est au moment où vous allez déposer votre permis de construire que l'État va instruire le dossier. Si vous êtes dans une zone sensible, il va ordonner la mise en place d'un diagnostic, c'est-à-dire un sondage, pour voir si le site est là, s'il est bien conservé, s'il revêt un intérêt patrimonial et scientifique. Et si c'est le cas, une fouille est mise en place. Pour le détail, si c'est un particulier, rien ne lui coûte, c'est-à-dire le diagnostic...
Merci de nous rassurer.
Le diagnostic est réalisé dans une mission de service public et ensuite l'État finance la fouille. En revanche, s'il s'agit d'un promoteur, s'il s'agit d'une grosse opération, là, après le diagnostic qui est toujours en service public, la fouille, en revanche, est passée dans le cadre d'un contrat.
Alors, la fouille peut durer combien de temps pour que j'ai le droit de construire mon pavillon?
Alors, si c'est un pavillon, la fouille peut durer quelques jours, quelques semaines, un mois au maximum. En revanche, si c'est un parking souterrain dans une ville qui a un passé long de plusieurs milliers d'années, ça peut durer plusieurs mois, il faut être honnête, jusqu'à une année pour le long d'un TGV, le long d'une voie importante.
Alors, le principe est donc ce que vous venez d'expliquer. On ouvre, on fouille, on trouve. Et alors, On va sillonner la France en vous écoutant tout à l'heure à travers bon nombre d'exemples de fouilles absolument passionnantes. Mais une fois qu'on a trouvé, ensuite on va donc refermer, si je vous ai bien compris, puisqu'il faut construire l'autoroute, la voie de TGV oui. ou le pavillon. Comment ça se passe? Est-ce que les sites sont enlevés? Ils sont recouverts? Comment ça se passe?
Alors le principe de l'archéologie préventive, c'est la restitution par l'étude. Ce qui sous-entend un acte fort qui est celui de démonter le site archéologique. En fin de compte, il faut imaginer, pour simplifier, que chaque site est une sorte de livre inconnu et que l'archéologue va fouiller strate après strate, un peu comme quand on tourne les pages d'un livre.
Voilà.
Et ensuite, une fois qu'il aura fouillé son site, qu'il aura lu le livre, il va en écrire l'histoire ailleurs. Les objets vont regagner des collections publiques dans les musées nationaux.
Ce qu'on peut sortir, on le sort. Ce qui est mobile, on le sort.
Voilà, ce qui est mobile... on le sort, les objets les plus intéressants sont présentés dans les musées, et ensuite, la connaissance du lieu permet d'écrire des synthèses, ou thématiques, ou chronologiques, ou géographiques.
Sur le papier, donc.
Sur le papier. Alors, on a, bien entendu, on peut utiliser le terme, on a détruit le site, il n'existe plus quand l'archéologue a terminé, mais de fait, il l'a étudié totalement, de la surface en profondeur.
Donc la mémoire peut...
La mémoire peut être suivie, et même, on l'abordera à travers quelques exemples, la richesse en est bien plus importante que si le site avait été sanctuarisé. Un site que l'on connaît, qui est conservé, y compris pour les générations futures, est un site qui n'est pas compris, une bibliothèque qui n'est pas fréquentée, un livre qui n'est pas lu. Et donc, en fin de compte, le fouiller, même si ensuite il n'en a plus la trace physique, c'est mieux le connaître.
Et alors, ultime précaution, une fois que la fouille est terminée, je peux construire mon pavillon. Est-ce que j'ai le droit de faire une cave en sachant que je vais débouler peut-être dans des termes romains, Dominique Garcia?
Alors, il y a deux aspects. Un, normalement, quand la fouille est terminée, la prescription est levée, et donc vous pouvez tout construire. L'archéologue a tendance, parce qu'il aime bien voir la fin des histoires, de fouiller un peu plus profond. Donc, généralement, votre cave ou votre piscine n'atteindra pas les vestiges. Ensuite, bien entendu, il y a certains vestiges qui peuvent être conservés. Et là, il y a un dialogue qui est établi avec vous, avec votre architecte, avec la maîtrise d'ouvrage. Et on peut éventuellement conserver quelques vestiges. On peut avoir même une négociation. Vous avez votre maison et vous voulez à côté construire un parking. Le parking ne va pas détruire les vestiges. On peut vous dire, là, il y a des vestiges, mettez plutôt le parking là, et la maison, on va la mettre aux endroits
donc
où il y a moins
discuter.
De risques.
On peut discuter.
Bien entendu.
D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions, parce que ça peut arriver à chacun d'entre nous, si j'ai bien compris. Ces zones sensibles que vous évoquiez tout à l'heure, elles sont nombreuses sur le territoire?
Elles sont partout.
Elles sont partout.
C'est ce qui, à la fois, pouvait être une contrainte, et aujourd'hui, une richesse. C'est-à-dire qu'on fouille autant dans les centres-villes qu'en zone rurale, autant dans des endroits fréquentés que dans des endroits où on va réaménager une route ou mettre en place un parc d'éoliennes. Donc c'est un peu partout, c'est la France qui est devenue un site archéologique et du coup qui permet de renouveler l'histoire. On ne fouille plus uniquement l'histoire des grands hommes et des grands sites, on fouille l'ensemble du territoire.
D'où le titre de votre livre chez Flammarion, La Fabrique de la France. Une dernière précision, Dominique Garcia. Nous avons vécu ces 30 glorieuses où la France a connu donc un effort considérable d'aménagement du territoire. On a construit des milliers de kilomètres d'autoroutes, des milliers de kilomètres de TGV aussi. Vous nous expliquez dans votre livre que chaque année, 700 km² sont concernés par des travaux de grande envergure. Mais vous nous dites aussi que ces travaux du temps des 30 glorieuses ont irrémédiablement perturber un patrimoine archéologique enfoui jusqu'alors préservé. C'était avant que l'INRAP ne fasse des fouilles préventives, c'est ça?
Exactement. Il y a eu un grand bouleversement, peut-être que vos auditrices et auditeurs en ont le souvenir. Pour des gens de mon âge qui sont nés au début des années 60, les limites de leur village ou de leur ville étaient les limites de l'enceinte médiévale. Ensuite, il y avait un boulevard, il n'y avait plus rien. Et ces 20, 30, 40, 50 dernières années, on a vu se construire les lotissements, les pavillons,
des rocades, des déviations,
les
des zones industrielles,
voilà. Et donc effectivement, entre l'après-guerre et les années 90, on a détruit en centre-ville et en banlieue et dans les campagnes des vestiges de façon durable. Et d'ailleurs, c'est pas l'INRAP.
Parce que là, on ne fouillait pas, c'est ça?
On ne fouillait pas, ou alors on pratiquait ce qu'on appelait de l'archéologie de sauvetage. Le soir, le week-end, on venait rapidement prendre quelques notes, recueillir des objets. Et c'est l'expression parfois des villageois, des citoyens, qui a permis la mise en place de cette loi. Il y a eu ce qu'on appelle des scandales scandales à Marseille, dans le centre Bourse, à Lyon, au Verbin Carné, à Paris, notamment devant, devant Notre-Dame, où on a vu des aménagements se faire, on a vu des vestiges au jour, les entrailles du passé comme ça affleurer. Et donc les populations se sont émues. Il y a, voilà, on a les petits scandales dont je vous ai parlé, notamment à Marseille, il y a eu un conflit entre Gaston Defferre qui voulait rénover sa ville, aménager, faire du neuf, il fallait qu'elle se modernise, et puis Malraux qui à l'époque était ministre de la Culture, qui a dit stop, on arrête, et puis ça aboutit à ce qu'on connaît aujourd'hui, le centre Bourse, zone commerciale, mais également musée, et puis un parc archéologique, et depuis le développement de l'archéologie préventive.
Voilà, et depuis avec la naissance de l'INRAP, alors je note aussi, Dominique Garcia, vous qui dirigez l'INRAP, que dans les années 70, il n'y avait en France que 600 archéologues, et aujourd'hui il y en a 6 fois plus, il y a donc bien un secteur public où on a beaucoup recruté.
Alors oui, effectivement, parce que c'est un secteur public original, dans lequel effectivement il y a l'INRAP, plus de 2000 agents, mais également des services des collectivités territoriales et quelques opérateurs privés qui travaillent agréés, qui travaillent dans le domaine de l'archéologie. Là où naguère, il y avait quelques professeurs d'université, quelques conservateurs de musées, quelques chercheurs au CNRS ou personnel du ministère de la Culture, donc qui étaient des professionnels souvent attachés à un site, à une période. Et aujourd'hui, pour affronter cette fouille de notre territoire, effectivement, on a embauché, on a formé, embauché de nombreux archéologues.
Alors, on va feuilleter avec vous, Dominique Garcia, le magnifique livre de notre histoire redécouverte. Mais avant cela, je voudrais vous faire écouter un premier reportage qui va nous expliquer comment ça se passe sur le terrain. Nous sommes, grâce aux équipes de FR3 Centre Val-de-Loire, nous sommes à Janville, dans le Loiret, dans la Beauce. Et là, on a découvert des choses tout à fait passionnantes. On écoute.
Les pelleteuses s'activent en Beauce depuis 3 jours. Ici, les équipes de l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, l'INRAP, réalisent un diagnostic.
On sonde le terrain qui va être aménagé à 10%. Donc en fait, on fait des tranchées, en général tous les 20 mètres, à l'aide d'une pelle mécanique, comme vous voyez, pour évaluer le potentiel archéologique du sous-sol.
Depuis 2001, la Direction régionale des affaires culturelles reçoit toutes les demandes de permis de construire. Du projet autoroutier à la construction d'un pavillon pour un particulier, la DRAC décide du diagnostic et des fouilles. Mais avant de déclencher des fouilles préventives, il faut prospecter sur le terrain.
On mesure la tranchée pour se faire une idée en fait, du volume qu'on a déjà réalisé.
Donc là, on est à 158 mètres. Et on n'a rien trouvé dans cette tranchée-là. Donc...
Sur cette parcelle de 4 hectares, les archéologues cherchent des signes d'habitation ou de sépulture, des éléments concrets prouvant la présence de l'homme à cet endroit.
Là, on vient de trouver un clou, un gros clou, mais très bien conservé. Le deuxième objet qu'on a trouvé, c'est un silex taillé.
C'est un silex, c'est un petit outil, il faudra le nettoyer, mais c'est un petit outil, c'est rigolo.
Mais il n'est pas en place, hein, donc on n'est pas du tout sur du site préhistorique à ce niveau-là. Mais...
C'est grattoir.
Valérie Delose vient d'arriver du Mans. Elle est géomorphologue. Sa spécialité, ce sont les strates de terre.
On a vu qu'on avait donc, la terre végétale
ouais.
Et une interface plus ou moins épaisse entre le limon
l'éolien.
Voilà, et le haut de...
Ouais, qui ferait donc la fameuse crête de voilà. Labour.
Notre géomorphologue doit établir une cartographie du sol de la parcelle. Le but est de comprendre l'environnement dans lequel vivaient nos ancêtres.
Jusqu'ici, à peu près, on a le sol de labour actuel. Ensuite, on a une couche un peu grise avec plein de petits éléments, dont des éléments de terre cuite. Là, il y en a un ici, mais tout petit, hein, c'est minuscule. On a une autre couche un peu plus grise encore là, qui peut-être un autre labour ancien. Et enfin, dessous, une couche un peu plus argileuse et plus orangée, qui traduirait les limons éoliens qui reposent sur le plateau ici.
Toutes les données récoltées au diagnostic finissent dans un rapport remis au service de l'État. La DRAC décidera d'effectuer des fouilles préventives sur ce site avant les travaux de construction d'un futur lotissement.
Voilà comment ça se passe au quotidien, Dominique Garcia. On a suivi donc grâce... à nos confrères de FR3 Centre Val-de-Loire, on a suivi donc vos techniciens qui, là, effectuent un diagnostic à Janville, dans le Loiret, c'est dans la Beauce. Alors moi, j'ai été attentif à ce qu'a dit l'une de vos agents sur place. Elle dit, on n'a rien trouvé sur 4 hectares, un clou, un silex. Il faut beaucoup d'abnégation pour faire ce métier.
Oui, effectivement, déjà le métier d'archéologue en dehors d'Inadadjant, c'est plutôt quelqu'un de modeste, quoi. Oui. Il faut aimer se baisser, se baisser en regardant la terre et se rapprocher. Voilà, je parle un peu d'éloge du quotidien, c'est-à-dire on voit des petits objets, il faut ensuite essayer de raconter une histoire autour de ces objets, mais c'est rarement merveilleux. C'est rarement merveilleux. Ce qui est merveilleux, c'est ensuite l'histoire qu'on arrive à construire. Et donc sur le terrain, nos spécialistes essaient de retrouver effectivement les sites, et parfois il n'y a rien, et c'est un fait.
Les racines du présent, RCF.
Les racines du présent, aujourd'hui, à travers l'archéologie, et plus précisément l'archéologie préventive. Nous sommes dans notre studio en compagnie de Dominique Garcia, qui dirige l'INRAP, l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, qui vient de publier aux éditions Flammarion un livre à la fois très beau, très intelligent et très passionnant, intitulé « La fabrique de la France ». Et avec lui, nous allons feuilleter un certain nombre de pages de cette histoire de France redécouverte à travers ces fouilles préventives. Alors commençons, si vous le voulez bien, Dominique Garcia, par cette trouvaille. Nous sommes à Angoulême le 20 novembre 2018, rue de l'amiral Renaudin, plus précisément. Les habitants d'Angoulême reconnaîtront. Et voilà, nous sommes à la fin d'un chantier de fouilles. Manifestement, il ne s'est pas passé grand-chose et tout d'un coup, on tombe sur un silex taillé qui est sans grand intérêt. Et puis après, que s'est-il passé, Dominique Garcia ?
Alors, sur ce site d'Angoulême, on a retrouvé, en fin de compte, un campement de chasseurs-cueilleurs, les dernières populations à pratiquer la chasse et la cueillette avant qu'elles deviennent agriculteurs, donc avant le néolithique. Cette période de la fin du paléolithique s'appelle l'Asilien. On va la dater, aller entre nous, vers 12 000 avant Jésus-Christ.
C'était hier.
Oui. À l'histoire, à l'échelle de l'humanité. Donc 12 000 avant Jésus-Christ. On a là des populations de chasseurs-cueilleurs qui s'installent en bordure de la Charente. On les imagine en train de retailler leurs outils, leurs armes, ces silex. On en retrouve en grand nombre d'ailleurs sur ce site-là.
Mais il y a autre chose.
Il y a également des petites plaquettes. Et sur ces plaquettes, on a retrouvé gravés des animaux. Et donc, on a la figuration là de l'art asilien, ce qui était peu ou pas connu pour ces périodes-là. Un art figuratif asilien avec notamment ces représentations de cervidés et de chevaux. Et juste une petite parenthèse, ça montre là, si vous voulez, la magie de l'archéologie préventive. Il a fallu attendre donc ces dernières années pour qu'on trouve un site de cette période qui soit un lieu de vie. Jusqu'à présent, quand on fouillait un site de cette période-là, on allait les chercher en grotte, c'est-à-dire en fin de compte, souvent dans des zones de sanctuaires, qui étaient des zones de refuge ou des espaces religieux pour les populations.
Mais pas des zones de vie quotidienne. Alors l'habitat que là, vous êtes dans la cuisine, quoi, presque.
On est tombé dans le campement, dans la halte de ces populations, avec tous les détails sur la manière dont ils se nourrissaient. On a effectivement les animaux qui ont été abattus. C'est aussi des informations qui peuvent être intéressantes aujourd'hui où on évoque souvent les changements climatiques. On est là, si les populations à un moment donné sont passées de chasseurs-cueilleurs à éleveurs et producteurs, c'est parce qu'en fin de compte, il y a eu un changement du climat. Avec notamment, on est passé d'une période froide à une période plus tempérée. Et donc là, les vestiges qu'on retrouve sur la fouille permettent de sentir cette dernière période froide avec des animaux de la fin du paléolithique et ensuite ce passage doux vers le néolithique.
Alors si j'ai bien lu vos collaborateurs, Dominique Garcia, il y a quand même une part de hasard dans la recherche puisque vous avez sorti plusieurs milliers, voire centaines de milliers de silex de ce site et l'un d'entre eux fait apparaître ces figures de chevaux tout à fait étonnantes.
Alors voilà, le hasard existe parce qu'on est à la fois dans une approche qui est extrêmement technique. Vous avez entendu tout à l'heure ma collègue qui parlait d'une fouille à 10%. Donc voilà. Les pratiques...
Il faut être sérieux dans ce métier.
Voilà, les pratiques sont rigoureuses, la technique est précise, l'expérimentation est d'un bon niveau. Mais ensuite, on ne va pas sur un laboratoire qu'on connaît déjà. Mmh. On est en terre inconnue. Et c'est ce qui permet parfois de retrouver ce qu'on connaît déjà, donc de renforcer mes connaissances sur un domaine, ou alors de tomber sur de l'inédit. Et effectivement, on ne pouvait pas parier qu'on allait tomber sur un site, sur ce campement, et sur ces éléments d'art préhistorique qui sont extrêmement rares.
Est-ce qu'il arrive que le cœur de l'archéologue se mette à battre ou est-ce que finalement ce sont des émotions assez ordinaires pour lui lorsqu'il découvre quelque chose?
Alors, quand il fait le diagnostic, il bat au rythme de l'appel mécanique, ouais. Il bat auprès de l'aménageur qui regarde que les choses se passent en temps et heure. Ouais. Mais ensuite, non, dès qu'il a la truelle à la main, dès qu'il regarde une stratigraphie, bien entendu, il y a cette émotion. L'archéologie, c'est avant tout la science du rêve. Ça ne sert l'archéologue et pour celui qui le regarde que s'il arrive à faire rêver, s'il arrive à échanger. Donc moi, tous les archéologues que je connais rêvent, même s'ils ne l'avouent pas tous les jours, de trouver un site important et ensuite aiment raconter une histoire dès qu'ils trouvent des vestiges.
Vous êtes des scientifiques, mais vous êtes aussi des rêveurs, c'est ça?
Oui, on est quand même un pied au ministère de la Culture et un pied au ministère de la Recherche.
Voilà, en termes administratifs. Alors, poursuivons notre promenade à travers les sites que l'INRAP a ouverts pour notre plus grand bonheur. Allons dans les Pays de la Loire, à Moulailles. Alors, à Moulailles, donc là, on trouve une ville gauloise fortifiée. On faisait les travaux pour une déviation et crac, on tombe sur une ville fortifiée de 135 hectares, c'est-à-dire un oppidum.
Alors là, voilà, c'est là la belle découverte. C'est-à-dire, quand on parlait tout à l'heure de silex, de petits objets, on a l'image de l'archéologue avec sa petite truelle, son petit pinceau qui trouve un petit objet.
Sa brosse à dents, oui, c'est ça.
Sa brosse à dents. Là, la brosse à dents, elle dégage quelque chose qui fait 135 hectares.
C'est considérable.
Et quelque chose qui avait totalement disparu de la carte. On sait aujourd'hui situer plus ou moins la capitale des Parisis, sous Paris.
On va en parler tout à l'heure, oui.
Où les grands sites comme Nîmes ou comme Lyon. Là, il y a une ville qui, à un moment donné, a été barrée de la carte, qui ensuite a été...
Mais comment ça se fait? Comment une ville peut complètement disparaître à ce point-là, sans laisser aucune trace?
Alors, déjà, avoir en tête que la ville est une idée neuve dans l'histoire de l'humanité. L'homme existe depuis quelques millions d'années, mais la ville a tout juste 10 000 ans. Mmh. Et dans notre pays, la ville la plus ancienne, c'est Marseille, il y a 2600 ans.
Ah oui.
Donc, pendant très longtemps, l'homme a vécu sans ville. Et il y a encore 20 ans, la moitié de la population, même dans notre pays, vivait en dehors des villes.
Absolument.
Donc aujourd'hui, ça nous paraît une préoccupation, la circulation à Paris, à Montpellier ou à Lyon. Mmh. Et puis l'avenir des villes, on en parle dans tous les journaux télévisés. Mais pour le reste du monde, ça reste une anecdote et la ville est donc un objet qui peut disparaître. Pour être plus précis, on est là dans une ville gauloise. Ensuite, les Romains vont réorganiser le territoire d'un point de vue politique, d'un point de vue culturel,
d'un point de vue
économique.
C'était de grands aménageurs.
C'était des grands aménageurs. Et donc, comme il y a eu des villes nouvelles, certaines ont disparu. Et Moulay avait disparu, n'était pas cité dans les textes, n'a pas livré de vestiges importants pendant de très nombreuses années. Et il a fallu attendre dans cette fouille récente de l'INRAP pour la livrer. Et dans le livre, élément qui est valable pour l'ensemble des chapitres, c'est le fouilleur même de la ville qui raconte cette histoire. Donc on a voulu comme ça, après la truelle, ce qui est aussi leur travail, donner le stylo aux archéologues qui sont sur le terrain pour raconter l'histoire de leur découverte et la mettre en perspective.
Et est-ce qu'ils s'y sont prêtés facilement? Parce que c'est pas leur métier de vulgariser leur découverte. Est-ce qu'il y a cet appétit chez eux?
Alors il y a cet appétit, et puis l'INRAP est un institut étrange dans lequel on est un institut culturel, mais dans lequel il n'y a pas de médiateur. Nos médiateurs, ce sont les archéologues sur le terrain, dans les conférences, dans les expositions, avec tous les défauts que ça peut comporter, comme aujourd'hui, et puis des qualités qui sont celles de l'authenticité. À un moment où on parle beaucoup de fake news, où les gens peuvent douter, quand vous allez sur un site archéologique, le silex, le mur, vous le voyez.
C'est du solide, c'est du sérieux.
Et l'archéologue, ce n'est pas un médiateur, c'est lui qui a trouvé les objets.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure Paris, notre capitale, qui n'a pas toujours été notre capitale. Paris n'est pas la ville la plus ancienne de notre cher et vieux pays. Et vous nous expliquez dans votre livre, dont je rappelle le titre, La Fabrique de la France, 20 ans d'archéologie préventive chez Flammarion, vous nous expliquez, Dominique Garcia, que le jardin du Luxembourg est un endroit tout à fait préservé parce qu'il n'a jamais été construit. Si je vous ai bien lu, il appartient au Sénat et non pas à la ville de Paris. Et donc, sous le jardin du Luxembourg, on sait qu'il y a un quartier résidentiel de Lutèce.
Alors voilà, c'est des fenêtres un petit peu magiques qu'il y a dans notre territoire, qu'il y a à l'intérieur des centres urbains, dans les cours des écoles, sur les salles, les grands espaces devant les casernes, dans les jardins publics. Il y a des espaces qui sont préservés. Et aujourd'hui, quand ces lieux sont modifiés, en l'occurrence là pour le jardin de Luxembourg, c'est les marronniers d'Inde qui actuellement sont arrachés parce que malades, replantés par de nouvelles
essences. Et donc on est allé voir ce qu'il y avait
en dessous. Et donc quand on est allé voir ce qu'il y avait, on a profité de l'arrachage de ces marronniers d'Inde pour aller voir ce qu'il y avait dessous. Et c'est pas inintéressant parce que les fenêtres ouvertes sous le Paris avant Paris sont extrêmement rares.
Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ?
Alors là, ça a permis de trouver une partie de ce qu'au départ, on pensait être en dehors des murs de la ville antique. Et en fin de compte, on est plutôt là dans le centre urbain. Donc, ça a permis de redéfinir les limites du Paris de Lutèce. Et ensuite, on a découvert, bien entendu, des traces d'habitat, des enduits peints, dont la qualité n'avait rien envié à ceux de Pompéi. La ville était déjà urbanisée dans le sens des goûts de citadins. Et ensuite, on a retrouvé du mobilier archéologique de qualité qui montre que même si Paris, à cette époque, n'était pas ni la capitale, ni la métropole extrêmement étendue. En revanche, par son rôle, par sa situation d'un point de vue géographique, elle avait déjà des liens économiques importants avec l'océan, avec les frontières des Limes et avec la Méditerranée.
Et comment on peut savoir ça à partir des objets trouvés ?
Bien entendu, parce qu'on retrouve des amphores. Alors aujourd'hui, l'amphore est sanctuarisé dans les musées. En fin de compte, l'amphore, à l'origine, était un récipient de transport, un petit peu comme les vases.
Tout à fait ordinaire.
Tout à fait ordinaire. Mais en revanche, chaque producteur avait des types d'amphores différentes, comme aujourd'hui, on arrive à reconnaître une bouteille de Beaujolais et celle de Bourgogne. Et donc, pour identifier le contenu, et donc là, les tessons qu'on a retrouvés d'amphores permettent de montrer les lieux d'approvisionnement de Paris, qui donc choisissait ses vins dans différentes régions de Méditerranée, prenait de l'huile d'olive de la Bétique, donc une province espagnole, venait se pourvoir en céramique fine de l'est de la France. Donc on voit que déjà Paris était un endroit où on consommait beaucoup.
À tout le moins un carrefour. Je crois aussi, Dominique Garcia, que vous avez trouvé des choses sous la cour de l'Institut catholique, au carrefour de la rue de Vaugirard à Paris et de la rue d'Assas.
Oui, alors là aussi on a des traces qui permettent de limiter probablement un espace public. On n'est peut-être pas très loin du forum en tant que tel dans ce secteur-là. Et Paris est une ville avec nos collègues de la ville de Paris qui font également de l'archéologie, dont on arrive petit à petit à avoir une image. Ce n'est pas le lieu archéologique le mieux connu.
Voilà. Ah oui, il y a encore des endroits qu'on ne connaît pas.
Ah oui, bien entendu.
Des points d'interrogation sur le puzzle.
Bien entendu, parce que la ville est encore là, bien vivante.
Oui.
On peut en témoigner que les monuments figent les niveaux archéologiques. Donc c'est du patrimoine qui est conservé pour les générations futures, mais autant d'espaces qui ne sont pas encore totalement connus.
On ne peut pas aller dessous partout.
On ne peut pas aller dessous partout. on fouille actuellement à Notre-Dame, bien entendu.
Ah oui, on profite du chantier ?
Alors on ne profite pas, mais comme bien entendu le drame de Notre-Dame oblige à faire des travaux, les archéologues essaient d'avoir une image du sous-sol pour aider la maîtrise d'ouvrage dans la reconstitution et également pour pas qu'il y ait de risque au moment de la construction. Donc effectivement,
sur la stabilité de l'édifice,
sur les phases plus anciennes, on a également travaillé sur les voûtes qui étaient effondrées pour reconnaître la nature des matériaux, notamment de la charpente, des clés de voûte, ce qui va permettre maintenant dans la reconstruction de faire les bons choix dans les matériaux de bois, dans les bons choix dans les matériaux de pierre.
Une dernière question, Dominique Garcia, que sont devenus tous ces objets, ces fragments, ces amphores qu'on a trouvés lorsqu'on a déraciné les marronniers d'Inde du jardin du Luxembourg ?
Alors, pas tous, parce que en règle générale, le mobilier archéologique est conservé dans des centres de conservation. Tout n'est pas utile. Un peu comme dans une bibliothèque, tous les livres ne sont pas utilisés en même temps. Mais certains objets sont déposés dans des musées et il y a aujourd'hui une petite exposition avec une belle vitrine dans le cinéma même, qui a voulu exposer un petit peu son histoire. Donc avant l'hémicycle, dans le couloir qui mène à l'hémicycle, les sénateurs et les gens qui fréquentent ce lieu voient une histoire de Paris résumée grâce aux fouilles du jardin de Luxembourg.
Avis à ceux qui vont visiter notre Sénat. Alors on va poursuivre notre promenade sur les traces du passé qui ont été récemment mises au jour à travers notre territoire, toujours grâce à nos confrères de FR3, mais cette fois-ci dans le Grand Est. On va écouter un extrait d'un reportage qui a été diffusé le 31 octobre 2020. Nous sommes en Alsace, à Châtenois, et donc autour du détournement de la départementale 35, on a découvert plein de choses. On va entendre Éric Boès, le directeur adjoint de l'INRAP, et Maxime Messner, le responsable des opérations, qui vont tout nous expliquer.
À Châtenois, les travaux de contournement de la départementale 35 ont démarré. Et qui dit travaux dit aussi souvent fouilles archéologiques préventives. Sur une des portions du chantier, des découvertes intéressantes ont été mises au jour. Elles sont visibles jusqu'à ce soir. Marie Edman, Florence Grandon.
Après 2 semaines de fouilles, les découvertes sont impressionnantes. voici les vestiges d'un moulin du XVIIe siècle.
Donc le moulin du XVIIe siècle, on l'a trouvé avec certitude, hein, c'est le bâtiment carré là où vous avez mon collègue. Donc ça c'est sûr. Après on a aussi des structures du XIXe, un peu plus tardives en tout cas, qui sont celles que vous avez ici. Et surtout donc la scierie qui est cette longue structure avec le béton et la brique. Donc ça c'est la scierie donc Stadelmann qui a été construite en 1885 et donc qui est venue entailler donc les couches dans lesquelles était le moulin.
Ce sont les petits objets trouvés sur le chantier qui ont permis de dater les murs, comme cette croix du XVIIe siècle. Et puis les archéologues sont allés rechercher les archives existantes, des plans bien succincts mais fort utiles.
Là, le moulin est ici.
Les découvertes des archéologues serviront à enrichir les documents du passé.
On va voir comment on peut raconter une histoire complémentaire sur la vie de ce moulin. Voilà, quelle a été son activité, au-delà simplement du travail qu'on attend d'un moulin. Et puis il y a des gens qui ont travaillé dans ce moulin, donc qui ont eu des activités. Et donc là, tous les petits objets qu'on va retrouver, ben, ils sont le souvenir de ça.
Un souvenir qui retournera bientôt sous terre pour laisser place à la nouvelle déviation de Châtenois. C'est le principe de l'archéologie dite préventive. Chaque année en Alsace, une centaine de chantiers de fouilles est ainsi menée avant le démarrage de travaux.
Voilà, nous étions donc sur le chantier de Châtenois en Alsace, le fameux détournement de la départementale 35. Alors, ce qui me frappe, Dominique Garcia, vous qui dirigez l'INRAP, c'est la brièveté de ce chantier, puisque notre consoeur journaliste explique qu'après 2 semaines de fouilles, on a déjà trouvé beaucoup de choses, donc ça peut aller très très vite. Et en fait, tout cela n'est visible que jusqu'à ce soir. Ça peut aller très vite, une fouille.
Alors, la fouille peut aller très vite. Aujourd'hui, très sincèrement, les archéologues ont les moyens de faire leur travail. Le temps est négocié avec l'aménageur sous le contrôle scientifique et technique de l'État, du ministère de la Culture, et c'est rare que l'on ait une grosse frustration à la fin d'une opération. Ensuite, l'archéologue n'est pas seul aujourd'hui sur le terrain. Nos fouilles archéologiques sont de véritables laboratoires à ciel ouvert. Il peut y avoir de 5 à 40 ou 50 personnes. Donc ça fait du volume qui est traité en tant que tel. Et puis, effectivement, la vraie frustration, je dois le dire en tant qu'archéologue, mais également en tant que citoyen, c'est qu'effectivement, ces chantiers sont réellement des chantiers avec des mesures de sécurité. Donc on essaie, nous, de les ouvrir de temps en temps avec des journées portes ouvertes, notamment pendant les journées européennes de l'archéologie au mois de juin. De temps en temps, quand une opération est un peu longue, de travailler avec les écoles, de travailler avec les citoyens, les associations.
Mais il y a une ouverture au public.
Mais ce ne sont pas des lieux de visite. Et donc bien souvent, on se dit, tiens, une fouille a démarré. Et puis, 15 jours, 3 semaines après, même moi, je me dis, zut, ne l'as pas vu.
Il faut refermer.
Il faut refermer.
Faut refermer.
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Aujourd'hui, nous allons véritablement aux racines du présent, aux racines de la fabrique de la France. C'est le nom d'un livre passionnant réalisé sous la direction de Dominique Garcia, le directeur de l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique et Préventive. C'est publié chez Flammarion et ce livre nous propose un bilan de 20 ans d'archéologie préventive. Alors, depuis le début de cette émission, nous nous sommes promenés à travers la France. Je voudrais continuer avec Dominique Garcia cette balade extrêmement plaisante à travers les pages de notre livre commun en d'autres termes, les strates qui sont sous nos pieds. Dans votre livre, il y a une très très belle photo d'une harpiste qui a été trouvée à Nîmes, si je ne me trompe pas, la harpiste au regard étrange. C'est une fresque romaine qui a été trouvée à Nîmes, Dominique Garcia.
Arles, mais peu importe.
Voilà,
les deux villes sont jumelles et voisines. Et effectivement, on a là les traces de ce qu'on appelle le style pompéien, c'est-à-dire qu'il y avait en compte un artiste italien qui est venu en Gaule au moment où l'espace était romanisé et a introduit un goût à l'italienne. Donc on parlait tout à l'heure de la ville. Mmh. La ville, c'est un objet tel qu'on le voit, mais c'est aussi une manière de vivre, c'est une mode. Et là, ce petit détail nous montre un petit peu comment les élites locales, gauloises, devenues romaines, ces fameux gallo-romains, ont adopté les modes de vie, mais aussi les symboles et les signes de cette romanité, vu qu'on a voulu chez soi avoir des murs décorés comme on les retrouvait à Rome ou comme on les retrouvait à Pompéi à cette période-là. Donc vous voyez, l'archéologie permet de découvrir des beaux objets, mais aussi de mettre du lien entre ces différents sites et de montrer un petit peu comment une culture évolue, et en l'occurrence, comment nos populations sont devenues romaines.
Juste une précision, ce type de fresque de type pompéien, si je vous ai bien compris, Dominique Garcia. On les trouve, donc j'ai bien compris, dans l'arc méditerranéen. Est-ce qu'on les trouve aussi plus au nord? Est-ce qu'à Lutèce, par exemple?
Non, alors non. À Lutèce, on a retrouvé des enduits peints d'un style plus gallo-romain. C'est-à-dire que là, en fin de compte, on n'a pas un artiste qui s'est déplacé. C'est quand le goût romain s'est étendu, s'est généralisé. Donc, on a de l'enduit peint de belle qualité de période romaine à Paris, mais on n'a pas là les prémices avec ce goût, ce neuf apporté un petit peu localement.
Alors, poursuivons notre promenade. Nous allons aller sur la colline de Fourvière à Lyon. Et figurez-vous qu'en 2015, à l'occasion de fouilles qui ont été réalisées, vous nous direz pourquoi du reste, eh bien, on a découvert pas moins de 839 tombes sur la colline de Fourvière. Là, c'est tout à fait exceptionnel, j'imagine, Dominique Garcia.
Alors, c'est exceptionnel, mais ça devient de plus en plus fréquent. Parce qu'en centre-ville, les sites qui étaient préservés de l'aménagement étaient souvent des anciens cimetières dont on avait gardé la mémoire, qui ensuite s'était transformée en jardin public, voire là, avant l'aménagement, appartenait à une congrégation religieuse. Et donc, en fin de compte, ces espaces-là étaient conservés, respectés en tant que tels, et on en gardait le passé.
Donc là, il s'agissait bien du jardin d'une congrégation religieuse, à Fourvière, c'est
ça ? À l'origine, oui. Voilà. Et ensuite, la congrégation religieuse a vendu son terrain à un aménageur privé pour construire des immeubles. Et c'est à ce moment-là où, bien entendu, on savait qu'il y avait un risque, où l'État a prescrit, où on a réalisé cette opération-là. Et donc, si vous voyez, si je peux me permettre de résumer, je parlais tout à l'heure de cercle vertueux de l'archéologie préventive. On avait là une congrégation religieuse qui avait besoin de moyens, oui, et qui ne pouvait pas entretenir ce terrain, mais qui avait la mémoire de ce cimetière. On avait là un aménageur qui voulait construire des logements parce qu'il y a des gens qui veulent avoir des maisons, c'est la moindre des choses. Et nous, archéologues, on est arrivés à concilier les deux, c'est-à-dire à conserver la mémoire de ce lieu religieux, en précisant même des détails de qualité,
et en même temps
de libérer le terrain pour qu'on puisse aménager.
Alors justement, ces 839 tombes, sur la colline de Fourvière, qu'on a mise au jour, s'agissait-il de tombes chrétiennes ou de tombes d'avant?
Alors on a les deux, et oui, c'est ce qui est passionnant. On est proche d'un cimetière païen, en bordure d'une voie de circulation, avec des mausolées, donc des belles tombes qui étaient placées en bordure.
Donc c'était romain.
Alors c'était romain.
Oui, voilà.
Au départ, bien entendu, Lyon est une ville romaine, elle le continue à l'être à cette période-là d'ailleurs, avec des cultes païens, et ensuite on voit l'émergence des pratiques religieuses chrétiennes à Lyon, très probablement la tombe d'un personnage important qui est mise en place, un des premiers chrétiens qui est enterré dans ce secteur-là. Et à ce moment-là, une communauté chrétienne qui se développe à Lyon, à cet emplacement sur la mer, et qui se fait enterrer dans cette même nécropole. Et l'archéologue arrive à voir sur quelques décennies les changements de pratiques. Sur quelques décennies. Bien entendu, on voit à la fois, alors ce qui est intéressant, il y a la continuité, le cimetière reste au même lieu, il y a de fortes chances pour que les personnes qui soient enterrées là soient les enfants ou les petits-enfants des païens qui étaient là en place. Le cimetière est respecté, de nouvelles tombes sont mises en place. En revanche, les mausolées avec des symboles païens, eux, sont démontés, les images sont démontées, et certains blocs sont réemployés, probablement pour caler les tombes des premiers chrétiens. Donc on voit là, presque en douceur, le passage d'une religion à l'autre.
En quelques dizaines d'années, c'est ça ?
En quelques dizaines d'années. Et probablement, on ne peut pas aller plus loin, mais ça s'est passé de manière extrêmement précise. Donc on a la continuité de la communauté, le changement de pratiques religieuses, dont l'archéologue, modestement, arrive à retrouver des signes par le démontage des bâtiments païens et la mise en place des tombes chrétiennes.
Si j'ai bien compris, il y a des restes que l'archéologue a fait parler dans cette nécropole, ce sont les griffons. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
Alors, ces griffons, ce sont des témoignages de sculpture des éléments plus anciens, les fameux mausolées qui montrent en fin de compte qu'à un moment donné, s'il y a une continuité dans le peuplement, s'il y a une continuité dans l'habitat et en l'occurrence dans la nécropole. En revanche, les symboles forts antérieurs sont détruits. Notre histoire contemporaine le montre parfois.
Et tout est réemployé.
Et donc, à ce moment-là, on réemploie, on recycle les blocs. Bien entendu, pas avec la même fonction, mais certains symboles sont repris ou d'autres sont effacés dans les tombes chrétiennes.
On est pris de vertige en vous écoutant, Dominique Garcia. On peut se demander que vont devenir nos propres cimetières et que, qu'est-ce que vos successeurs archéologues dans plusieurs siècles vont découvrir de nous à travers nos cimetières.
J'espère qu'ils en garderont la mémoire. On a aujourd'hui plusieurs signes. Et puis bon, là aussi, on le voit aujourd'hui dans les changements de rites, l'inhumation qui est en train de disparaître au profit de l'incinération, comme c'était déjà la pratique à l'âge du bronze. Mmh. Donc l'histoire est aussi parfois des grands renouvellements.
Alors, on a parlé des païens, on a parlé des chrétiens, on va parler des musulmans. Vos collaborateurs ont découvert à la lisière de Nîmes des tombes. C'était en 2006, ils ont découvert des tombes qui étaient orientées différemment des autres tombes, avec des positions des corps sur le côté droit, face vers le sud-ouest, avec des traces de linceuls. Vous avez pu dater ces tombes comme nous venant du 8e siècle et vous avez compris à ce moment-là qu'il y avait des musulmans en Provence. C'est bien ça, Dominique?
Alors oui, cet élément de l'archéologie est intéressant. Je parlais tout à l'heure d'éloges du quotidien. Ça permet de donner du sens et du contenu à des grandes phases historiques. On a tous en tête Charles Martel qui arrêtait les Arabes à Poitiers. On sait très bien, on parle de la reconquête en termes historiques de l'Espagne vers la France. On a ces éléments-là en tête. En revanche, ce peuplement musulman, on ne l'avait pas. Et là, dans le cas de cette fouille de Nîmes, on est là, il y a une communauté chrétienne et dans le même espace où sont enterrés les chrétiens à Nîmes, au 8e siècle, on a un petit groupe, vous l'avez dit de manière précise, un petit groupe de tombes orientées différemment, avec des espaces funéraires extrêmement étroits. Donc les personnes ont été déposées là sans cercueil, directement dans un linceul ou dans leurs vêtements, orientées vers la Mecque. Et puis surtout, un nouvel outil aujourd'hui, les études ADN nous ont montré que ce petit groupe avait des origines qu'on pouvait situer notamment dans l'espace berbère. Donc on a là des gens qui sont venus, ce ne sont pas des esclaves, ce ne sont pas des gens qui ont été tués de manière brutale. D'ailleurs, il y a eu sans doute quelqu'un, un officiant, pour que tous les gestes soient extrêmement bien respectés. Donc ça montre une forme de convivence à Nîmes au 8e siècle avant Jésus-Christ, où des musulmans...
Après. Ah,
pardon.
Lapsus. Pardonnez-moi de vous rattraper. Après.
Pardon. Voilà. Après, c'est un lapsus de proto-historien.
Voilà.
8e après, où donc des musulmans vivaient à côté de...
C'est ça.
À côté des chrétiens.
Vous avez pu déduire une coexistence pacifique, puisqu'ils sont inhumés dans les mêmes lieux.
Alors là, ne rêvons pas qu'il y ait eu des moment terrible et que d'ailleurs cette première occupation ait cessé à un moment donné, c'est une évidence. Mmh. Mais en revanche, à un moment donné, dans celui-là précisément, on s'aperçoit que les choses ont pu fonctionner de manière correcte. On a d'autres indices, par ailleurs, du mobilier originaire d'Afrique du Nord qui a transité, des épaves qui montrent une activité commerciale. Ça dessine une autre géographie.
En vous écoutant, Dominique Garcia, on a l'impression que l'archéologue est non seulement un artiste ou un scientifique de la fouille et de l'excavation, mais il pratique aussi l'art de la déduction. À partir de ce que vous trouvez, vous pouvez déduire un art de vivre, un art de prier, de célébrer, d'être inhumé, de manger, on va y venir.
Alors,
c'est tout ça que vous pouvez
dire. Alors, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. En revanche, la culture matérielle nous permet d'être précis. Je parlais tout à l'heure de fake news. Voilà, les tombes, elles existent vraiment. Mmh. Les documents, on les a conservés. Les murs, les gens peuvent les voir. On a là un vocabulaire commun, une grammaire commune. Ensuite, il y a des interprétations. Donc, on a les preuves, un peu comme une enquête policière.
C'est ça.
On a les
preuves.
Ensuite, on donne des directions, des hypothèses. Et ensuite, effectivement, on peut proposer un cadre que chacun est libre, bien entendu, de discuter.
C'est ce qu'on appelle un cold case.
Exactement.
Alors, si vous le voulez bien, on va poursuivre notre balade archéologique et on va se rendre cette fois-ci à Crouzy, en Eure-et-Loire. On va écouter les archéologues Philippe Salé et Isabelle Pichon nous détailler leurs trouvailles.
Cette parcelle est fouillée depuis décembre. Dans quelques mois, la maison d'un particulier prendra place au-dessus des vestiges. Les archéologues de l'INRAP ont 3 mois pour étudier ce site riche.
Alors ici, c'est un site qui est connu depuis le 19e siècle. Nous sommes à
donc sur un gros atelier de potiers, un des plus gros de la région. Des potiers de l'Antiquité qui ont produit de la céramique du 1er au 3e siècle, un volume énorme de céramique. On trouve en fouille énormément de tessons, de cassons de céramique partout.
Ici, les archéologues ont pu trouver deux sarcophages, des sépultures d'enfants et des traces d'habitation, comme ces tuiles utilisées pour paver un passage.
Ça nous apprend comment fonctionne un peu le bâtiment. Si on est à l'intérieur, à l'extérieur du bâtiment, les différents états successifs du bâtiment, donc la vie du bâtiment. Voilà, s'il y a plusieurs reconstructions, ce genre de choses.
Alors là, vous voyez, nous avons un tesson de céramique, c'est un bord d'un gros pot, c'est ce qu'on appelle un dolium, et qui est assez caractéristique des productions des potiers gallo-romains. Et vous voyez que dans ce fossé, on trouve énormément de ces céramiques de l'époque romaine.
Le site de Mougon à Crouzille est plutôt exceptionnel. Habitations, ateliers et nécropoles se superposent à travers les siècles. Un bonheur pour nos archéologues.
On a différents vestiges des époques gallo-romaines et du début du Moyen-Âge. Alors tout ça, c'est un petit peu entremêlé. C'est des choses qui ont été découvertes après le décapage des terres végétales et qui se retrouvent sur plusieurs niveaux. Les vestiges les plus récents sont en position haute et les vestiges les plus anciens sont en position basse et dessous, donc on les voit pas forcément, ce qui nécessite un redécapage.
En plus des fouilles, l'autre pendant du travail d'archéologue, c'est de faire de la pédagogie en accueillant riverains ou écoliers pour une visite de chantier. L'occasion de faire un cours d'histoire très concret.
Sur le site. Les enfants, vous allez mettre un beau petit gilet d'archéologue. Donc je vais vous le donner sur vos manteaux. Et puis après, on va vous inviter à descendre vers le site.
Voilà, nous étions à Crouzille en Eure-et-Loire et les enfants visitent ce chantier où on a trouvé, on l'a entendu, des poteries, des sarcophages, des tuiles, des céramiques. Est-ce que vous regrettez, Dominique Garcia, que les visites organisées pour les jeunes notamment ne puissent pas être plus fréquentes? Est-ce que ce ne serait pas quelque chose qu'on pourrait ou qu'on devrait développer?
On essaie de le faire régulièrement. On travaille, nous, avec les enseignants. On a un accord cadre avec les professeurs d'histoire géo. On travaille au plus proche. On a même des ambassadeurs pédagogiques, c'est-à-dire des enseignants avec qui on échange régulièrement, à qui on fournit de la matière. D'ailleurs, regardez sur le site inrap.fr, on peut télécharger gratuitement des plaquettes, des frises chronologiques. Donc, on essaie de produire comme ça une documentation avec les enfants. Effectivement, c'est l'avantage de l'archéologie, c'est que c'est du concret. Donc les enfants savent lire comme nous un squelette, savent lire comme nous un mur, peuvent être émerveilleux. Ils sont eux-mêmes aussi, moi je l'ai vu sur des sites, des bons ambassadeurs par rapport à leurs parents. S'ils viennent le matin avec l'école, ils en parleront le soir à table. Et peut-être qu'on verra arriver les parents le lendemain. C'est un peu la magie de l'archéologie.
Les racines du présent. RCF.
Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Dominique Garcia, le directeur de l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Et avec lui, nous parcourons à travers un livre qu'il vient de publier aux éditions Flammarion intitulé « La fabrique de la France ». Nous parcourons 20 années d'archéologie préventive du nord au sud, de l'est à l'ouest de notre pays. Eh bien, nous découvrons des merveilles qui sont sous nos pieds et qui ont pu être manifestées, mises au jour grâce à cette fameuse archéologie préventive qui, je le rappelle, s'exerce dès lors que on veut créer une zone industrielle, une zone administrative, une zone commerciale ou même un simple pavillon. Donc on ouvre, on regarde et on expertise et on referme après. Alors, il y a quelque chose qui est très très manifeste à travers vos recherches, Dominique Garcia, c'est tout ce qui se passe autour de l'art de la table et notamment, là, j'ai bien noté l'art de la table à la Renaissance. La place des cuisines, mangeait-on chaud ou froid, la révolution de la faïence, découvert à usage personnel. Vous pouvez, à travers vos recherches, repérer les évolutions dans notre manière d'être avec la nourriture.
Alors effectivement, c'est sans doute un sont des dossiers les plus documentés parce que l'archéologue, pardon, fouille un peu les poubelles de l'histoire.
Voilà.
Et donc on retrouve
les
déchets. Les
poubelles sont pleines de choses.
Exactement, ce sont, on retrouve les arêtes de poissons, on retrouve les ossements, on retrouve les graines et on retrouve les céramiques qui ont permis à les cuisiner et celles qui ont permis à présenter. Donc soit pour des périodes précises comme la Renaissance où on voit des goûts venir d'Italie être introduits en France.
Par exemple.
Alors on a justement, prenons peut-être sur une période plus longue, on a nos Gaulois qui pratiquaient le bouilli. En fin de compte, ils ne connaissaient pas la friture. Ils pratiquaient, en fin de compte, le pot-au-feu, l'adobe, le ragoût, le bourguignon.
Tout ça, c'est gaulois.
Et tout ça, c'est gaulois. Et on a des formes qui sont extrêmement fermées. On faisait bouillir longtemps quelques petits morceaux de viande dans beaucoup d'eau. Et avec ça, on nourrissait la famille. À la période romaine, les goûts méditerranéens, ça va être à la friture. On va avoir des plats qui vont être ouverts pour faire frire. Et donc, à ce moment-là, plus de viande, plus de poisson et de la friture en tant que telle. Au Moyen-Âge, on aura effectivement le bouilli qui va reprendre un peu plus de place. Les goûts méditerranéens vont reculer.
Avec beaucoup d'épices aussi, je crois.
Avec beaucoup d'épices, etc. pour cacher parfois les goûts, dit-on. Et ensuite, à la Renaissance, on va avoir à nouveau une reconquête, si j'ose dire, de la Méditerranée avec ses pratiques qui viennent d'Italie, qui viennent d'Espagne et qui vont gagner l'ensemble du royaume. L'alimentation est à la fois quelque chose dont on hérite, mais également parfois pour lequel on peut être influencé.
Et tout ça, ce sont les objets qui vous le disent.
Alors, ils sont extrêmement précis parce que là, il n'y a pas eu de choix. On a mangé, on a rejeté les restes et les archéologues les retrouvent en grand nombre.
Alors, il y a aussi des histoires humaines que vous évoquez dans ce livre et qui sont tout à fait étonnantes. Lorsqu'en 2015, on a fouillé à Rennes le couvent des Dominicains devenu les Jacobins, eh bien, on a trouvé des sépultures. On a trouvé une urne en plomb contenant un cœur et il s'est passé quelque chose autour de cette sépulture.
Alors oui, la sépulture de Dame de Quingot, qui est une aristocrate de la période moderne à Rennes, qui était enterrée dans le couvent des Jacobins, a été enterrée dans un sarcophage en plomb. Et donc, dans ce sarcophage en plomb, son corps était parfaitement conservé, ses vêtements étaient parfaitement conservés. Donc, les archéologues, tout à l'heure, ont parlé d'enquête policière, ont travaillé là de manière assez rapide. Le cercueil a été prélevé, transporté à Toulouse pour être étudié par des chirurgiens et des médecins. L'ensemble des analyses ont été faites. Et donc, aujourd'hui, en plus, le nom de cette dame de Quingot, Louise, était inscrit. Donc, on connaissait le nom de cette personne et donc on a pu étudier bien entendu cette sépulture parmi toutes les autres, étudier les vêtements, étudier sa vie, étudier son état de santé parce que l'ensemble des restes étaient conservés en tant que tel. Tout cela a parlé et on sait aujourd'hui qu'elle appartenait donc à la famille Tonquédec.
Et donc vous avez remonté l'arbre généalogique.
On a remonté l'arbre généalogique.
Et vous avez trouvé ses descendants.
Ses descendants et ses descendants ensuite après étude ont repris le corps et il a été inhumé une deuxième fois. En Bretagne.
C'est notamment le comédien bien connu Guillaume de Tonquédec, qu'on voit souvent sur nos écrans, petit et grand, qui a donc réinhumé le corps de son aïeul.
C'est d'ailleurs la loi, c'est-à-dire que l'archéologue, quand il trouve un corps, ce n'est pas un objet archéologique, c'est des restes humains que l'on respecte et que l'on traite à part. Mais lorsqu'on peut mettre un nom, à ce moment-là, on a obligation, bien entendu, de le signaler à la famille, qui soit le considère comme un reste humain historique, soit peut le reconsidérer, lui accorder la valeur qu'il le souhaite. Et donc là, elle a été inhumée dans le cimetière familial.
Elle a été réinhumée.
Réinhumée, exactement.
Voilà une bien belle histoire. On arrive bientôt, malheureusement, au terme de cette promenade à travers la France archéologique. Je voudrais que vous nous expliquiez, Dominique Garcia, ce que vous avez trouvé au bout du monde et au milieu de nulle part, c'est-à-dire au milieu de l'océan Indien. Il y a un petit îlot où il n'y a absolument rien, qui s'appelle l'îlot Tromelin, qui fait partie des territoires australes, on dit ça ?
Oui.
Australes français, c'est ça ? Voilà, c'est un lieu stratégique parce qu'il nous permet d'assurer notre domaine maritime bien connu, puisque nous avons le deuxième domaine maritime au monde. Mais sur cette île de Tromelin, où rien ne se pousse et où personne ne va jamais, eh bien, vous avez trouvé quelque chose.
Alors, sont venus là des gens qui ne voulaient pas y aller.
Voilà.
Il y a donc un bateau, une flûte qui part de Bayonne en 1700. 1760, qui ensuite, de Bayonne, va jusqu'à Madagascar, charge des esclaves qu'elle va normalement amener à La Réunion. Il y a une tempête, le bateau échoue sur ce petit îlot de Tremblin, à 500 km de toute autre terre.
C'est au milieu de nulle part.
Un petit espace d'un kilomètre carré, 8 mètres de haut.
Voilà, on imagine.
Certaines personnes décèdent, des marins ou des esclaves. Les autres arrivent donc à se hisser sur ce bloc de corail. Au départ, l'équipe est assez unie. On décide de reconstruire une embarcation. L'embarcation s'en va, mais malheureusement de nuit uniquement avec les maîtres, si j'ose dire, avec l'équipage.
Et les esclaves restent
sur place.
Combien de temps ils vont rester ?
Ils vont rester plusieurs années. Certains vont mourir sur l'île, d'autres vont naître dans ce petit
groupe.
Incroyable,
une histoire absolument incroyable.
Et bien plus tard, quand l'histoire sera connue, on viendra rechercher les quelques survivants qui iront jusqu'à La Réunion.
Et il reste toujours des abris sur place que
et
vous
sur place,
avez donc
bientôt
expertisé.
Alors des abris qui sont remarquables parce que ces esclaves venaient de Madagascar où il n'y avait pas de construction en dur, où les constructions étaient en bois. Et donc ils ont reconstruit à Tremblin les maisons qui avaient la forme de tombes. Parce qu'en fin de compte, la seule architecture en dur qu'ils connaissaient, c'était l'architecture funéraire traditionnelle qui existait à Madagascar.
Écoutez, on pourrait vous écouter pendant des heures, Dominique Garcia, pour dérouler devant nous cette gigantesque bande dessinée de l'histoire de notre pays. On arrive malheureusement au terme de cette conversation. Je voudrais vous poser une dernière question, Dominique Garcia. Vous qui dirigez l'Institut National de Recherche Archéologique et Préventive, existe-t-il en France un sol vierge de tout reste archéologique ?
Non, certainement pas. Il y a peut-être des endroits où les vestiges ont été effacés. On peut imaginer un endroit où un grand fleuve a arraché des vestiges. On peut imaginer le plateau du Larzac dans certains endroits totalement érodés. Mais en revanche, non, les espaces ont été occupés. Et peut-être justement, c'est un des actes importants de l'archéologie, se montrer que notre pays est un espace construit, fabriqué, d'où le titre de la Fabrique de la France.
Un espace qui a bougé en permanence.
Qui a bougé, voilà. La nature est une construction humaine et l'espace occupe. L'environnement est extrêmement occupé.
Alors, une ultime question, Dominique Garcia, c'est plaçons-nous à la place de vos successeurs dans 5 siècles. Que restera-t-il de notre époque ? Est-ce qu'il vous arrive de vous poser ces questions ? Qu'est-ce que vos successeurs archéologues vont découvrir ?
Alors, par définition, l'archéologie préventive fouille à l'endroit où on construit le patrimoine de demain. Donc, je vois couler du béton, je vois construire des routes. Donc, je pense qu'il y aura des vestiges dans l'avenir. Après, reste à savoir si, grâce à des gens comme vous ou les gens qui nous écoutent, il y aura toujours assez d'émotion et assez de force pour s'interroger sur les populations qui ont vécu avant, c'est-à-dire nous. Mais en revanche, des vestiges seront là.
Que restera-t-il de nos tours, par exemple ? Je pense au quartier de la Défense à Paris.
Ah, il restera des fondations, il restera parfois des élévations. Et on continue aujourd'hui à s'interroger parfois sur des vestiges récents. Imaginons les aciéries des années 1960. Certaines ont été démontées, d'autres sont remplacées. Il y a des endroits encore où on peut mettre en place ce qu'on appelle une archéologie industrielle, une salle de spectacle telle qu'on les a connues dans les années 70. Peut-être mériterait une étude archéologique aujourd'hui.
J'ai même vu qu'une bouteille de Coca-Cola peut être un objet archéologique.
Alors, on a découvert effectivement une bouteille de Coca-Cola dans un camp, mais qui était une bouteille de Coca-Cola fabriquée en Allemagne. Donc, ça permet de montrer que les indices, il faut aller pousser jusqu'au bout pour pouvoir les faire lire au mieux.
Qui dit bouteille de soda, comme on dit, eh bien, ça n'était pas un camp américain, c'était un camp allemand, parce qu'on fabriquait ça aussi en Allemagne.
Exactement.
Donc, on voit bien à quel point l'archéologue doit faire preuve de déduction intelligente. Un grand merci à vous, Dominique Garcia, pour cette balade passionnante à travers la France archéologique. Je rappelle le titre du livre que vous avez coordonné aux éditions Flammarion, La Fabrique de la France, 20 ans d'archéologie préventive. C'est un livre, je ne crains pas de le dire, absolument passionnant pour les petits et pour les grands. Il y a des images, il y a des photos, il y a des textes tout à fait sérieux, mais en même temps tout à fait accessible. Voilà, vous pouvez évidemment retrouver cette émission ainsi que la référence du livre de Dominique Garcia sur le site de RCF. Vous pouvez évidemment nous écouter et nous réécouter en balado-diffusion, en podcast et puis surtout faire écouter à tous ceux que vous aimez faire réécouter cette émission. Il suffit d'aller sur le site de RCF. Un grand merci à notre réalisateur Pierre Samanos et en tout cas merci à vous tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup.